Prix des lecteurs étrange lecture 2020. Extrait de Black Mamba Boy de Nadifa Mohamed aux éditions Phébus. Je suis le griot de mon père. Ceci est un hymne à sa gloire. Je vais vous conter sa vie afin d'inscrire avec toute la magie que sa mère lui a cousue sous la peau, sa chair et son sang dans l'histoire. Car je veux faire de lui un héros, non pas taillé dans l'étoffe des guerriers ni des romantiques, mais plutôt dans celle bien réelle du gamin affamé qui survit aux flèches et aux coups que la fortune hostile destine à ceux de son espèce. Héros qui peut dorénavant prendre le temps de narrer les aventures de tous les êtres qui n'ont pas eu la même chance que lui. Si je veux vous relater son histoire, c'est parce que personne ne le fera à ma place. Aden, Yémen, octobre 1935. Sous une température caniculaire, Djama se dirigea d'instinct vers le quartier des entrepôts. En poussant du pied une boîte de conserve, il dévala les rues poussiéreuses du cratère, ville située au cœur d'un volcan dont la chaleur infernale plaquait comme de la lave population et culture sur ses flancs. La lumière du soleil réfléchie par les toits de tôle l'aveugla un instant. Les senteurs de thé, café, encens, myrrhe, répandus sur la colline, en un mélange écœurant l'enveloppèrent et lui montèrent la tête. Au niveau du premier dépôt, des colis torse nus chantaient en hissant de lourdes caisses de bois à l'arrière de camions. Ils en plaçaient d'autres, légèrement plus petites, sur le dos des chameaux et chargeaient les sacs des ânes. Djama franchit le seuil en pierre des magasins de café Al-Madina et réussit à percer l'obscurité grâce aux rayons de soleil filtrant par les interstices du toit. Ils illuminaient la poussière remuée par l'entrechoc des grains de café jetés en l'air pour en desserrer les coques. Toute une armée de femmes sous-payées en robes somaliennes à fleurs de couleurs éclatantes se tenait penchée au-dessus de paniers, occupées à nettoyer les grains afin de les rendre propres à la vente. Djama se faufila parmi elles, à la recherche de celles qui avaient des séquelles de variole, des yeux aux reflets cuivrés, des canines en or et une chevelure d'ébène. Il la trouva dans un coin à l'écart, les cheveux retenus en arrière par un foulard bleu ciel. Elle lui baissa la tête et il sentit sa peau douce, toute couverte de taches de rousseur, l'effleurer pendant qu'elle déposait un baiser sur sa joue. Elle lui glissa à l'oreille. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Good ?» Je suis pas là pour m'amuser, tu sais. Tu veux quoi ? Djama se tenait devant elle, jambes croisées, comme un flamand. C'est pas. Je m'ennuyais. T'as des sous ? Il n'avait pas pensé à lui réclamer de l'argent. Mais maintenant qu'il se trouvait en sa présence, il était comme gêné de lui avouer qu'il ne voulait que la voir. Caleb, tu viens me voir au travail pour me demander des sous ? Vraiment ? « T'es qu'un égoïste, et tu mérites qu'Allah te maudisse. Sors vite, avant que le mukadim t'aperçoive. » Il prit les jambes à son cou et s'en alla trouver refuge derrière l'entrepôt. Mais elle réussit à l'y trouver. De ses mains sèches et rugueuses, elle l'attira contre elle, et l'odeur d'encens et de café qui émanait de sa robe lui emplit les narines. Il éclata en sanglots. « Good, good, s'il te plaît. T'es plus un enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu peux me dire ? T'as vu la vie que je mène ? Tu peux pas avoir un peu pitié de moi ?» Elle le tira par les bras jusqu'à un muret face à la mer. « Tu sais au moins pourquoi je t'appelle Good ?»« Non, » mentit Djama, avide d'entendre parler de l'époque où il avait une vraie famille. Quand j'étais enceinte de toi, j'ai pris énormément de poids, Mon ventre pointait de façon incroyable, et les gens me disaient que la jeune fille de 17 ans que j'étais risquait de mourir en donnant naissance à un bébé aussi gros, et que t'allais m'arracher les entrailles. Mais moi, je m'en faisais pas. J'étais heureuse, car je savais que j'attendais quelqu'un de spécial. C'était très difficile d'emboîter le pas des chameaux, surtout que je marchais de moins en moins vite. Souvent, je n'arrivais pas à suivre la grande caravane de mon père, et c'est clopin-clopant que je rattrapais le reste de la famille avec mes chevilles enflées. Un jour peut-être, au 8e mois de ma grossesse, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter, même si le dernier chameau n'était plus en vue depuis belle lurette. Dans la brousse, il y avait un vieil acacia appelé Gumbara Banka. Je me suis assise à l'ombre du vieil arbre pour m'y reposer. Adossée à son tronc, j'étais concentrée sur ma respiration haletante. Je portais un goutineau de nomade qui exposait mon ventre au soleil et à la brise. Quand soudain, j'ai senti la douceur d'une main me caresser le dos et se diriger vers mon nombril. J'ai baissé les yeux et, oh gaillé, ce n'était pas une main, mais un énorme mamba lové sur mon estomac. Terrorisée à l'idée que son gros corps allait écraser, j'ai bloqué ma respiration. Le serpent s'est immobilisé lui aussi et a posé sa gueule diaboliquement sage contre la paroi de mon ventre pour écouter les battements de ton cœur. Tous trois, on est restés comme ça pendant ce qui m'a paru être une éternité. Puis il s'est remis à onduler et à glisser de mon corps avant de disparaître dans le sable d'un coup de queue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu t'appeler Gaude, ce qui veut dire mamba noir. Mais ton père s'est moqué de moi. Pourtant, quand à ton tour, tu as ondoyé de mon corps avec ta belle peau sombre et ton odeur de terre, je savais le nom que j'allais te donner, et je l'ai gardé comme mon petit nom, pour moi, pour mon bébé serpent.